Bon, ben merci camarades et amis d'être là. Bravo d'avoir été jusqu'ici en ce temps de match de hockey. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui vous motive, c'est les 1,5 million et 2 millions de manifestants qui, le 19, sont descendus dans la rue pour combattre Macron, son monde et sa contre-réforme des retraites. Ça faisait des années, pour ne pas dire des siècles, hein, dans les mémoires de militants, qu'on n'avait pas vu. Non, mais ça change, ça donne une bouffée d'air frais. Et donc c'est extrêmement important de bien sentir ce que ça peut vouloir dire, pas seulement sur la question des retraites, mais de manière générale, qu'est-ce que ça peut changer dans la situation. Voilà, ça c'est extrêmement, la première chose est extrêmement importante, avec des petites villes où il y a eu un nombre de manifestants absolument incroyable, dans la fonction publique aussi, mais aussi dans des secteurs du privé, l'agroalimentaire, les métaux, l'automobile et tout ça. C'est extrêmement important. Et donc le prochain rendez-vous, la prochaine étape, c'est le mardi 31 janvier. Alors on pourrait dire que c'est extrêmement long par rapport à la vapeur qui s'était concentrée le 19. Bien, c'est clair. On peut penser que, par exemple, la CFDT n'a pas dû lâcher les freins, bien sûr. Mais on peut aussi, nous, en tant que militants, l'interpréter d'une autre manière. C'est que ce temps, eh ben, il faut l'utiliser pour préparer le seul mouvement qui leur fait véritablement peur, c'est-à-dire celui où il y a des grèves, celui où il y a de l'auto-organisation, celui où il y a blocage du pays. Alors ça ne veut pas dire que... il faut prendre des jours pour des gens le samedi qui ne peuvent pas aller manifester. J'ai des exemples, voilà, plein d'exemples de gens très précaires ou des petites boîtes qui disent « Tiens, ben, quand est-ce que ça manifeste ?» Donc, ils ont pu manifester, par exemple, à la retraite au Flambeau. Mais enfin, grosso modo, on sait bien que c'est par la combinaison d'un mouvement massif d'opinion, d'abord. Et là, pour l'instant, c'est gagné. Et à une échelle de rejet de cette contre-réforme extrêmement importante, de mobilisation, mais au total, de grève, de blocage, de grève active qui repose toutes les questions dans des secteurs clés de l'économie. Alors on pourrait parler de ce qui, on espère, pourra se passer du côté des raffineries, ou on peut parler de ce qui peut se passer du côté d'EDF, puisqu'ils perdent une partie de leurs régimes spéciaux, indépendamment de la réforme générale, et qu'on a vu des zones industrielles coupées, ou des permanences coupées, ou des gratuités mises pour des villes, des hôpitaux, des précaires, des particuliers. Voilà. Donc c'est ce mouvement-là qu'on veut voir. Et s'il y a une première chose à discuter, que le NPA propose de discuter aux syndicalistes, aux gilets jaunes, aux insoumis, aux militants syndicalistes, aux citoyens, aux anticapitalistes, c'est comment on peut faire en sorte que ce mouvement très important bascule vers un blocage du pays. Voilà, c'est quand même ça qui est important, avec au-delà que ce blocage, mais c'est un peu la même chose, soit l'occasion d'une prise en main du mouvement avec des structures, des assemblées générales interprofessionnelles, des cortèges de boîtes intersyndicaux, enfin, que ceux d'en bas se saisissent de cette mobilisation pour imposer plusieurs choses. La première chose, le maintien de l'unité, extrêmement large, mais en même temps, on sait bien que dans les contre-propositions, c'est extrêmement varié. Donc pour maintenir l'unité, pour enraciner à la base, dans les entreprises, dans les quartiers, cette mobilisation. De ce point de vue-là, c'est très bien qu'il y ait sur la troisième circonscription une réunion large mêlant à ce... Voilà. Qui a Canteleu, il va bientôt y avoir le 9, je crois, pareil, une réunion où on essaie de rassembler, bah, ça sera quasiment essentiellement NPA, France Insoumise, PC, Vert, et des syndicalistes de la mairie, des gilets jaunes et tout ça. Bon, c'est exactement ça qu'il faut faire, mais pas seulement pour discuter ensemble, c'est comment on impose ce rapport de force. C'est vraiment la première discussion, être des militants pour l'unité, être des militants pour l'auto-organisation, être des militants pour le contrôle de nos luttes, être des militants pour le blocage du pays, parce que les journées sautent mouton, on sait que c'est la meilleure manière de perdre. Et que donc, il faut qu'on arrive à bloquer le pays, la production de valeur, et c'est la seule chose qui peut leur faire véritablement peur. Alors, cette réforme, certes, son objet, c'est la réforme des retraites au départ. Hein. Cette réforme qui offre 2 années de nos vies au MEDEF, Cette réforme qui va faire basculer de 62 à 64 ans progressivement l'âge de départ officiel, qui allonge en même temps la durée de cotisation, ce qui fait qu'au total, peut-être que l'âge de la retraite va réellement reculer, c'est une des certitudes, mais ce qui est encore plus certain, c'est que les pensions vont reculer, parce que la plupart des gens, à l'heure de prendre leur retraite, ils ne sont plus au travail. On voit ces chiffres. 55-64 ans, il n'y a plus que 56% des personnes qui sont en activité. 60-64 ans, il n'y a plus que 33% des gens qui ne sont plus en activité. Et donc ça va contraindre à baisser les retraites. Et sur le fond, c'est bien ce que le gouvernement veut, puisque la première chose, c'est offrir 2 années de Dovi au MEDEF, et la deuxième, c'est rétablir les grands comptes, pas ceux de la retraite, puisqu'on pourra avoir de la discussion, mais ils ne sont pas véritablement dans le rouge, mais diminuer le budget d'État pour refaire un transfert de valeur vers les capitalistes à travers des baisses des impôts de production notamment. Bon, voilà. Donc c'est évidemment ça qui est la première enjeu. C'est la contre-réforme des retraites. Mais au total, s'il y a eu autant de personnes, c'est que cette réforme, elle est symptomatique de tout ce contre-courant velouté. On a une période de bas salaire, on a une période d'inflation, et tout ça conjugué avec la perspective de petites retraites, notamment pour les femmes, je reviendrai de manière séparée, eh bien, ça veut dire que les questions de salaire et des questions de retraite et de protection sociale sont intimement liées. Il nous parle de déficit. On est obligé de dire que s'il y a plus de personnes qui travaillent, ça fait plus de cotisations sociales. Par exemple, 100 000 personnes qui travaillent en plus, c'est 1 milliard de cotisations sociales en plus. Par exemple, s'il y a moins de femmes qui ont des temps de travail, des mi-temps, des temps partiels imposés, eh bien évidemment, c'est beaucoup plus de cotisations. Donc le seul moyen fondamental de permettre cette solidarité entre les actifs et ceux qui ont bien gagné ce droit à la retraite, c'est augmenter les salaires, partager le temps de travail avec le maintien des salaires, c'est augmenter la part patronale des cotisations, c'est en fait financer notre protection sociale en prenant sur les profits, alors qu'au contraire, ils veulent prendre sur les profits, enfin augmenter les profits, en baissant nos retraites, en baissant les allocations chômage, et il y a une cohérence entre les différentes réformes. Donc le moteur, c'est la réforme des retraites, mais évidemment, la question des salaires, du partage des richesses, elle est en arrière-plan de tout ça. D'autre part, le moteur de la colère aussi, c'est la précarité sans fin, le chômage de masse. Si on va vite, il y a des gens dans la jeunesse, quand on dit « Fulu de l'AIC, ouais, mais enfin, moi, la retraite et tout ça, c'est très loin. 64 ans, ça paraît très loin. » Mais en fait, il y a une conséquence très concrète. C'est que si les personnes les plus âgées sont obligées de travailler plus longtemps, eh bien, ça fait moins de boulot si les salariés n'arrivent pas à l'imposer. Pour cette jeunesse qui est de plus en plus condamnée à la précarité. Qui dit précarité dit absence de cotisation, dit absence de retraite. Et en fait, on a un cycle. Et donc, un des moteurs de cette bagarre, c'est le refus aussi de la précarité. C'est aussi le refus de ce monde où les femmes sont sous-payées. Et les principales victimes de cette réforme des retraites, évidemment, c'est celles qui déjà ont les salaires les plus bas. On y revient. Moins 23% de salaire des femmes par rapport aux hommes, mais si on regarde la retraite, moins 40% de retraite des femmes par rapport aux hommes. Et si on regarde encore plus, c'est elles qui vont le plus vers ces fameux 67 années, où nous non pas on a sa cotisation, on a sa retraite à taux plein. 67 ans, c'est pas l'âge de la retraite à taux plein. C'est l'âge où on n'a pas de décote. On peut prendre sa retraite sans décote, 67 ans. Mais il y a ce qu'on appelle une proratisation. C'est-à-dire, si on la prend sans décote, eh bien, on ne la prend pas à taux plein, on la prend aussi au prorata des dates sur lesquelles on a cotisé. Et évidemment, quand à travail égal, eh bien, il n'y a pas de salaire égal, bon, les métiers féminins, infirmières par exemple, vous voyez la disparité des salaires, quand le temps de travail partiel est imposé, quand les maternités ne sont pas véritablement prises en compte, quand le travail d'aidant pour ses enfants handicapés ou pour ses parents handicapés n'est pas pris en compte, il est essentiellement féminin pour une énorme part, eh bien ça fait des retraites encore plus petites. Et malgré tous les discours de Macron et Borne, eh bien les femmes seront les principales victimes. Ils ont essayé de nous la jouer autour des 1200 euros, vous savez, 85% du SMIG. T'as l'air de dire, ben voyez, les femmes, c'est favorable. Elles vont avoir 1200 euros. C'est surtout elles qui vont être bénéficiaires parce que, eh bien, si on atteint 67 ans, eh bien, on aura ça. Bon, le problème... Tu voulais dire quelque chose ? Ah d'accord. Non, mais le problème, c'est que, d'abord, c'est pas 67... c'est pas 1200 euros net, c'est brut. Donc déjà, ça rabaisse. Et surtout, c'est 1200 euros à 67 ans pour une carrière complète. Or, la carrière complète, eh bien, les femmes, encore plus que les autres, ne les ont pas, pour tout ce que j'ai dit avant. Donc au total, c'est très bien pour l'affichage, c'est parfait, mais c'est absolument pas quelque chose qui est dans la réalité. Ça permet de parler au journal de 20 heures, que c'est l'égalité et tout ça. Et puis aussi, d'une certaine manière, un des moteurs de la lutte contre cette réforme, du fait qu'il y ait presque 2 millions de personnes qui sont descendues de la rue, si on y réfléchit bien, c'est ce décalage complet entre le monde dans lequel on aimerait vivre et la réalité du travail qu'on vit et de la société dans laquelle on vit. En clair, une société où il faudrait travailler moins pour travailler tous, travailler moins, pour produire mieux à l'heure du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité. À l'heure où le travail contraint, aliéné, non respecté, de plus en plus difficile pour les articulations masculin, travail manuel, mais aussi la psychologie, la charge de travail, qui est notamment le cas du travail féminin, qu'on voit les secrétaires ou qu'on voit les infirmières, eh bien ça, c'est quelque chose qui paraît insupportable aujourd'hui. Voilà. Il faudrait au contraire réduire radicalement le temps de travail, discuter collectivement de ce qu'on produit, voilà, et puis avancer un peu comme ça. Autre élément qu'il faut discuter, au moment où il y a des milliers de travailleurs, des millions même, qui fuient le réchauffement climatique, les guerres, la misère et tout ça, qui transforment la Méditerranée et maintenant la Manche en tombeau, le fait que des centaines de personnes, des milliers de personnes soient sans papier, donc à la merci des employeurs, c'est pareil, des gens qui, pas toujours, ne cotisent, qui ont des revenus extrêmement faibles, et s'il y avait une régularisation, s'il y avait un rapport de force, ils auraient des salaires plus élevés, des cotisations plus élevées, et le front de classe serait plus développé. Donc voilà, c'est tout cet arrière-plan qu'on retrouve et qui doit nous servir à alimenter notre bagarre sur la question des retraites. En clair, derrière le refus de la contre-réforme, Borne, j'ai dit, 2 années de vie qui sont données au MEDEF, des milliards d'euros pour réduire les impôts de production, les régimes spéciaux dans des métiers difficiles qui sont attaqués, la précarité, les bas salaires qui augmentent. Eh bien, au total, ce qui est refusé, c'est cette société capitaliste où on se tue au travail, où on perd sa vie à la gagner. Et c'est au sens vrai et propre du terme, puisque à l'âge de la retraite, 25% des ouvriers sont déjà morts. Voilà. Et ils nous disent l'espérance de vie augmente. Nous, on dit tant mieux. Elle augmente aussi parce que des luttes ont conquis une retraite, ont conquis de la pénibilité, même s'ils ont essayé de la reprendre, et où l'espérance de vie en bonne santé, est à peu près justement autour de 64 ans. Et évidemment, extrêmement différente selon qu'on est un cadre ou un ouvrier. Voilà, moi j'avais fait un topo à l'université d'été du NPA, il y avait Philippe Poutou au fond de la salle, je l'avais intitulé « Pourquoi Philippe Poutou risque de mourir 11 ans et demi plus tôt qu'Emmanuel Macron, banquier, virgule, si on n'y fait rien ?» Eh bien tout simplement que la charge mentale, les pollutions, la malbouffe, le stress, tout un ensemble de choses font que la différence d'espérance de vie est autour de 11 ans et que l'espérance de vie en bonne santé stagne. En clair, ils ne veulent nous mettre ils veulent que nous soyons uniquement des producteurs de valeur, alors que nous voulons aussi avoir le temps de vivre et pas seulement de cracher de la valeur. Gagner sur la réforme des retraites, je finis un peu là, c'est redonner l'espoir pour l'ensemble des batailles. Ce serait une inversion du rapport de force. On en discutera, mais c'est clair que Macron, basé sur quoi sa volonté d'avancer ? Sur la résignation, ni plus ni moins. À tel point qu'il n'a même pas eu besoin de la CFDT cette fois-ci. Le deal n'a pas été fait avec la CFDT, pour apaiser un peu les tensions dans le monde du travail, mais a été fait avec les LR, à cause de sa majorité précaire à l'Assemblée nationale. Donc, gagner, ça serait de redonner du courage pour tous les combats. Par exemple, dans des secteurs, il y en a bien besoin, je pense à la santé ou plein d'autres secteurs, où c'est extrêmement difficile de lutter. C'est possible, on peut gagner, on peut les bloquer, on peut avancer, ça c'est la première idée. Et puis, si à l'opposé, on perd, évidemment, ces contre-réformes vont avancer, tel un rouleau compresseur, mais il y a pire que ça. C'est qu'on sait que la colère sans solidarité, c'est-à-dire le chacun pour soi, les poings dans les poches en disant « quelle bande de salauds, Macron !» Seulement Macron, sans avancer vers des formes de solidarité, d'unité et tout ça, c'est le Front National qui gagne. C'est le Front National qui gagne. Donc un des enjeux de cette victoire qu'il faut avoir, elle est politique. C'est marginaliser le Front National et ses solutions individualistes et que la colère se lie à la solidarité pour opposer à la réforme de Macron des augmentations égales pour tout ça. Tout ce que j'ai décliné sur le travail, l'écologie, les salaires, les sans-papiers et tout ça. Voilà, je termine en disant une seule chose. Évidemment, le Conseil d'orientation des retraites a dit que les retraites étaient globalement équilibrées aujourd'hui. Elles sont même en supplément de 3 milliards d'euros cette année. Et les variations ne seraient que quelques pourcentages. Alors, donc, une fois qu'on a écarté toute cette histoire de grande sauvegarde des retraites grâce à ces éléments, puisqu'il faudrait dégager de l'argent, la réalité nue, elle est celle-là. Elle est que c'est une manière de baisser les impôts, d'augmenter donc les profits, et c'est une manière, pour ceux qui auraient des revenus et qui le pourraient, de contraindre à aller de plus en plus vers les complémentaires, c'est-à-dire une forme de privatisation de la retraite. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Mettre la main sur les retraites, et de manière générale la protection sociale, c'est le budget de la protection sociale, il est supérieur d'un tiers au budget de l'État. Voilà. Et le fonds de réserve des retraites, c'est 150 milliards d'euros. Voilà quelque chose. De même qu'on dit que pour eux, la sécurité sociale, c'est un vrai scandale. Ils veulent mettre la main dessus pour la transformer en une banque. De même, sur les retraites, c'est ça le deal. Alors, je vous passe sur l'argent. Il y en a, Oxfam a dit, taxer à 2% les 50 premiers actionnaires. Ça règle les 12 milliards de déficit annoncés dans un des scénarios du corps. Parce que si on relit les documents anciens du corps, en 2013, il disait qu'en 2022, il y aurait 23 milliards de déficit. Je dis qu'il y en a 3 dedans. Voilà. On pourrait dire aussi qu'augmenter les salaires, je l'ai dit tout à l'heure, et tout ça. Bon, voilà. Donc, au total, c'est une bataille extrêmement importante, centrale, qui doit pouvoir servir à les bloquer et à remontrer à tous et toutes que gagner, ça vaut le coup. Ça sera en même temps la manière de gagner contre le Front National. Ça sera en même temps la manière de tisser des solidarités en bas pour imposer non pas ces journées saute-mouton, non pas le maintien de l'unité syndicale au prix d'un mouvement inefficace, mais d'imposer unité en haut et unité en bas pour la seule chose, et je termine là-dessus et je passe la parole à Christine, qui est efficace, à savoir réussir à bloquer le pays, que des secteurs soient suffisamment forts, légitimes, avec adosser un puissant mouvement de masse pour véritablement bloquer le pays. C'est ce qui est à l'heure du jour aujourd'hui.